Pas besoin de poursuivre. L'histoire parallèle entre Lot et Abraham, la raison pour laquelle Lot va se séparer d'Abraham. Alors, vous vous rappelez du premier plan général, que chacun des patriarches est accompagné par une série d'approximations, en particulier au niveau de Abraham, l'approximation d'identité qui va s'instaurer en réalité, comme je vous l'ai annoncé, c'est Lot. Je reprends la définition qu'on avait eue préalablement, c'est-à-dire qu'il se trouve à Ur-Kasdim, une famille des Hébreux qui descend de Shem, mais par Éver. Dans le héros de cette famille, dans le récit, ça va être très rapidement Abraham lui-même. Et pour le moment, ce que nous avons déjà appris, c'est qu'il y a toute une famille qui quitte Ur-Kasdim pour se diriger de nouveau vers le pays de Canaan, c'est-à-dire retourner sur le pays des Hébreux. Quel est le problème ? Nous aurons à le revoir chaque fois qu'on aura à étudier une situation d'exil. À la fin d'un temps d'exil, se produit une accumulation d'opposition à l'identité d'Israël. Je parle de façon un peu générale parce qu'il y a trop de choses à la fois, étant donné les différents épisodes auxquels on peut se référer. Prenez comme premier modèle l'histoire de Jacob chez Laban. À la fin de l'exil de Jacob chez Laban, vous avez une opposition de Laban contre Jacob. En termes anachroniques, on va déjà appeler ça de l'antisémitisme. Mais c'est une règle que nous allons suivre à chacune des époques, à chacun des exemples, et qui n'a malheureusement pas d'exception. À la fin d'une période d'exil, il y a accumulation, comment dit-on en français, intensification de la persécution. L'idée vous est claire, hein ? Prenez par exemple l'exemple le plus évident dans l'histoire de la Bible, c'est quel exil ? L'exil d'Égypte. Et dans le deuxième exil, l'exil de Babel, après la destruction du premier temple, entre le premier temple et le deuxième temple, quel est l'épisode ? Pourri. Oui. Mais répondez-moi sur le sujet. Quel est le nom qu'il faut citer pour cette accélération de la persécution au moment de la fin du temps ? Amen. Bon. Alors la première référence, vous la chercherez vous-même, dans l'histoire de Jacob chez Laban, on la retrouvera dans l'étude, mais vous la chercherez déjà vous-même. Et vous verrez déjà un modèle, un schéma, qui est le modèle de ce qui se passe dans chaque exil, que je vais vous analyser très brièvement. Hein. Il y a trois temps. Au premier moment, Israël en exil se connaît comme Israël en exil et reste sur sa réserve, sur ses gardes, si j'ose dire. Deuxième moment, le temps de l'installation, de l'assimilation apparaît. Troisième moment, la persécution. Réfléchissez bien à ce modèle-là. Et comme je vous ai dit, malheureusement, il n'a pas d'exception. Dans le temps contemporain, c'est quel cas ? Le nazisme. Bon. Et vous prenez par exemple ici l'exemple de la diaspora d'Espagne, de la Galoute en Espagne. Pendant les premiers siècles, alors les Juifs se connaissent comme à part, premier moment. Ensuite, deuxième moment, ils tendent à se prendre pour des Espagnols. Troisième moment, l'Inquisition. Oui, c'est un modèle, si j'ose dire, qui revient de façon permanente. Alors, il y en a énormément de questions qui se posent à ce sujet. Pourquoi il en est ainsi ? Quelles leçons en tirer ? Mais pourquoi il en est ainsi ? C'est d'abord, nous devons prendre acte des faits. C'est un mécanisme qui apparaît à travers chacune de ces périodes d'histoire qu'on appellera les exils. Et quelles leçons en tirer ? Une première remarque, c'est que malheureusement, on n'a jamais tiré une leçon claire et chaque fois, on se laisse prendre le même piège. Vous avez compris le problème. Alors, je reviens très brièvement. Le premier modèle explicite dans le récit de la Torah, c'est l'histoire de l'exil de Jacob chez Laban. Vous trouverez vous-même la référence. Mais il y a déjà un modèle préalable, c'est précisément l'histoire de les Hébreux à Ur-Kasdim. Et là, c'est le Midrash qui nous réintègre les raisons pour lesquelles cette famille, dont le héros est Abraham, va décrocher de cette humiliation d'Ur-Kasdim. Pardon ? Vous y êtes ? Bon, c'est en fait que je revienne en arrière. Rappelez-vous, c'est la signification même du nom Ur-Kasdim. La fournaise de Kasdim, enfin, et maintenant on peut malheureusement diagnostiquer de façon claire les camps de concentration et les fours crématoires à Ur-Kasdim. C'est-à-dire un mécanisme toujours le même. Un empire qui devient totalitaire, la première victime centrale de la façon la plus grave, c'est l'identité hébraïque en instance dans cette civilisation-là. Autant d'Abraham, c'est cette famille d'Hébreux devenue araméen à Orcasie. C'est clair jusque-là ? Bon. Finalement, cette famille décide de décrocher. Au dernier cours, nous avons vu ça assez abondamment, que l'initiative vient des hommes, et ensuite seulement c'est confirmé. Vous vous rappelez de cela ? Bon. Et alors, il y a différentes possibilités que je vais vous énumérer vraiment très rapidement. Vous allez prendre le texte avec moi. Déjà, prenez le texte du chapitre 11, et au verset 27. Voici les différents versets, et vous verrez les différentes possibilités. Voilà, chapitre 11, Yudalef, verset 27, Kavzaïm. Et les toldot Terah. Voici les engendrements de Terah. Terah relie d'être Abraham. Terah a enfanté Abraham. Vous y êtes ? Oui. Vet Nahor et Nahor. Vet Haran et Haran. Je crois que c'est le dernier schéma qu'on a vu au tableau avant d'arriver. Vet Haran relie d'être Lot. Alors nous avons plusieurs personnages. Abraham, c'est celui qui va réussir jusqu'au bout la mutation d'identité, qui va faire de Abraham à Ivri, mais qui est encore dans l'identité araméenne, mais on l'appelle l'hébreu, chapitre 14, verset 13, pas chapitre 13, verset 14, l'inverse, quel ? Chapitre 14, verset 13. C'est au moment du récit de la guerre à Sodome et Gomorre, des 4 rois contre les 5, que le récit nomme Abraham, Abraham à Ivri, Abraham l'hébreu. Vous vous rappelez de cela ? C'est la référence la plus importante pour notre analyse. Alors, parmi tous ces personnages du verset 27, Abraham va vivre et réussir cette mutation d'identité jusqu'au bout. En termes contemporains, c'est le récit de la première Aliyah, avant la lettre, si j'ose dire, des Hébreux qui étaient en exil dans Ur-Kasdim. Qui va réussir vraiment cette Aliyah ? C'est Abraham. Et puis, il a pour frère Nahor. Nahor va rester à Ur-Kasdim. Plus exactement à Haran. Enfin, il y a Haran qui lui va mourir à Ur-Kasdim, et ce Haran a enfanté Lot. Alors Lot, lui, va accompagner Abraham pendant toute une première partie de son chemin, de son histoire. Et à un certain moment, ils se séparent. Alors là, donc, ce que nous allons étudier aujourd'hui comme premier modèle d'une approximation d'identité qui, en fin de compte, sera séparée. Je vous donnerai deux thèmes que vous relirez à cela. Le terme de l'alliance et la bénédiction. C'est-à-dire que, a priori, Lot et Abraham se ressemblent absolument. Et j'aurai tout à l'heure à vous donner, quand on abordera le chapitre 13, un verset qui le montre très clairement. C'est-à-dire, ils sont d'une identité très analogue. Vous vous rappelez qu'on a déjà étudié cela, il n'y a jamais d'égalité au niveau des personnes. Okay. Mais Lot est un Abraham possible. On ne sait pas encore qui va échouer. Mais pour le moment, dans la première partie de l'étape, Lot aurait pu être un Abraham possible. Le verset que nous étudierons tout à l'heure, dans le dialogue de séparation entre Abraham et Lot, Abraham va dire à Lot, « Anachim, Achim, Anachnou. » Nous sommes des hommes frères. Le commentaire, en particulier Rachid, va expliquer, « Nous nous ressemblons comme des frères. Celui qui voit Abraham croit voir Lot, celui qui voit Lot croit voir Abraham. » Et comme il y a une différence d'identité profonde qui était cachée jusque-là, qui va se dévoiler, alors il faut se séparer. Vous y êtes jusque-là ? Verset 28. Vayamod Haran alpeneter Habib beret molato beurkazdim. Et Haran est mort à Urkazdim, comme j'ai dit tout à l'heure. Verset 29. Vayikar Abraham benachor laem nashim. Là, on nous explique qui est la femme d'Abraham, qui est la femme de Nahor. On continue. Verset 31. Vaikar Terah et Abraham Beno. Et Terah prit Abraham son fils, Vet Lot ben Haran ben Beno, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, fils de son fils, parce qu'Haran, entre-temps, est mort. Vous voyez, la figure de Haran qui est très importante dans le Midrash. C'est un frère d'Abraham, mais qui a préféré mourir dans la galoute. Voilà la première des éventualités. C'est clair ? Et puis, on ne nous parle plus de Nahor. Nahor n'est pas mort dans la galoute. Il est resté vivant dans la galoute. Enterré vivant. Je ne sais pas comment vous dire ça. Okay. Alors, je reprends le verset 31. « Ikar Terah et Abraham Beno, Et Léa a pris Abraham son fils, et l'autre ben Haran ben Beno, et l'autre fils de Haran, fils de son fils, et Sarai Kanato, et Sarai sa bru, Echet Abraham Beno, femme d'Abraham son fils, et ils sortirent de Ur Kasdim, la Lechet Atzaknaan, pour aller en direction du pays de Knaan, Haran, et ils arrivèrent jusqu'à Haran. Alors, retenez définitivement la différence. Haran, c'est un des fils de Terah, mais qui est mort à Ur Kasdim. Haran, c'est la ville sur le chemin, pratiquement à la frontière, entre la Kasdeh et Eretz Knaan. Vaishevusham, ils s'installèrent là-bas. Alors nous avons donc ces différentes possibilités de la sortie de la galoute, celle de l'échec, celle de la demi-réussite et celle de la réussite. Je vous les rappelle brièvement, mais ce sont des modèles. Nahour disparaît du texte, il est resté à Ur Kasdim. Haran est mort à Ur Kasdim. Lot a accompagné Abraham une partie de son chemin dans le pays de Canaan, alors que Terah est resté à Haran et est resté là-bas, sur la frontière. Vous voyez, toutes les étapes nous sont montrées en modèle. C'est bien jusque-là.
Oui, avec Nahor, on va plus loin avec l'histoire de Jacob, que Nahor est un rabbin.
Est-ce que vous ne confondez pas avec Bethuel? Il n'est pas nommé dans ce verset, il reste là-bas.
Mais on sait plus loin que lui a été lui aussi Haran.
Voilà, la raison pour laquelle le texte nous cite Nahor, c'est pour nous mettre déjà sur place l'existence dans cette famille d'Abraham d'une lignée possible où trouver femme pour la suite des engendrements. Okay. C'est bien clair. Mais là-bas, c'est surtout Bethuel, son fils, qui est cité. Et voilà la première référence. Donc, je ne reviens pas en arrière, vous avez suffisamment d'analyse à ce sujet. Il y avait une identité hébraïque de l'exil de ce temps-là, c'est l'identité araméenne. Le héros principal, c'est Abraham, qui deviendra Abraham en Eretz Israël. Mais il est accompagné par un membre de sa famille, qui est Lot, son neveu, c'est clair, et qui aurait pu être un Abraham possible. Alors, il y a déjà une quantité d'informations qui nous sont données là. C'est que l'identité Israël a une origine, a une préhistoire. Elle ne naît pas ex nihilo. Et sa préhistoire remonte jusqu'à Adam Harishon. C'est pourquoi nous avons toute cette préface de carte d'identité, si j'ose dire, depuis Adam Harishon, le premier homme, jusqu'à Abraham. Et elle est mise en jeu dans l'histoire d'une délivrance, dans l'histoire d'une réussite, d'un projet d'identité. Alors, on comprend que, dès le début, c'est accompagné par des lignées approximatives. C'est bien clair, l'idée est bien claire. Le type de cette lignée approximative d'un Abraham qui aurait pu être Abraham et qui n'a pas réussi, c'est Lot. Ça va? Pourquoi c'est important? Parce que les conséquences de cette lignée parallèle, de cette lignée accompagnatrice, si vous voulez, pèsent dans l'histoire d'Abraham dès l'origine. Nous avons vu qu'il y a 6 lignées de ce genre qui font 7, vous vous rappelez de ça? Du grand schéma, okay. Et on est en train d'explorer très brièvement, pour le moment, celle qui vient de Lot. De Lot, quelles sont les deux peuplades qui vont apparaître et qui s'instaurent en rivalité d'Israël, que vous lirez dans toute l'histoire de la Bible, mais encore une fois, j'y ai fait allusion un peu jusqu'à nos jours, c'est Ammon et Moab. Vous vous rappelez de cela? Et il est très probable que si on se posait la question un peu à la loupe, en analyse de détail, que cette rivalité finalement se cristallise aujourd'hui entre la Jordanie et Israël. Oui, oui, jusqu'où ça va. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai dit?
Il est peut-être intéressant de noter aussi qu'on dit Avram dans les pays, tandis que l'on dit Laval
à Rami. Ça, on le verra au moment de là-bas, oui. C'est-à-dire toute cette gang araméenne, si j'ose dire, va se crisper, se cristalliser dans la dernière étape contre Jacob. Et Laban, qui fait partie de cette famille d'origine, c'est lui qu'on va appeler la Arami, l'araméenne. Donc, on arrivera à ce moment-là. Alors nous allons suivre maintenant, au début du chapitre 12, les versets qui nous montrent Lot et Abraham cheminant de conserve, si on peut dire ça comme ça. Et rappelez-vous que jusqu'à présent, on ne sait pas que Lot va être disqualifié. Et il nous apparaît ici un principe important, c'est déjà dès le début, la Torah nous met en évidence un personnage qui est à côté d'Abraham. À la limite, si Lot avait réussi, on n'aurait pas parlé de lui. Il aurait été un des enfants d'Abraham. Est-ce que c'est bien clair? On a mis en évidence l'histoire de cette lignée très proche, mais qui n'est que proche, approximation. Il y a une proximité, ça c'est positif, mais approximation c'est négatif, c'est clair. Et la ligne de l'échec, mais on nous a surtout parlé de Lot pour nous faire comprendre plus tard qui sera Ruth qui sort de Moab. Retenez ça dans un coin de vos notes. Et Ruth qui est un des trois grands modèles des convertis à Israël que nous aurons à étudier. Les deux autres étant Jéthro et le troisième, je vous dirai, un autre.
Alors, de Deutéronome, l'interdiction des Hébreux de conquérir le pays de Moab.
Pas de conquérir exactement, de le traverser.
De traverser, oui.
Donc, et avant d'aller plus loin, vous allez noter une indication qui nous est donnée au verset 30 du chapitre 11. Et qui est aussi un thème qui va accompagner toute l'histoire des patriarches. Prenez le verset 30 du chapitre 11. Au verset précédent, on apprend qu'Abraham et Nahor ont pris des femmes. Le nom de la femme d'Abraham, c'est Sarai. Le nom de la femme de Nahor, c'est Milka, fille de Haran, sa nièce. Et Haran est le père de Milka et de Iska. De là, on apprend que Sarai s'appelait aussi Iska. Bon, mais toute cette Iska-là, il faudrait l'étudier en détail dans le Midrash, je vous le cite en passant. On a appris que Abraham et Nahor se sont mariés. Plus tard, on apprendra que du mariage entre Nahor et de Milka va naître Rivka. C'est qu'on le lance déjà. Et puis vous avez ce verset 30 qui était très important pour lui-même. Je vais prendre quand même quelques phrases pour vous expliquer ça déjà en préface. Vatehi Sarai Akara Enla Valad. Et Sarai était, je suppose qu'on vous traduit stérile, elle n'avait pas d'enfantement possible, Valad, d'enfant. On va apprendre qu'en fin de compte, elle aura un enfant. Donc elle n'était pas stérile vraiment. Je ne connais pas en français de mots qui définit exactement ce que veut dire l'hébreu Hakara. Sinon, de dire qu'elle était incapable encore d'enfanter. Puisqu'en fin de compte, elle va enfanter, c'est qu'elle n'était pas stérile. Alors, nous avons là un thème qui va accompagner toute l'histoire des patriarches. Et d'abord, le fait qu'on va nous parler de Sarai, qu'elle n'a pas d'enfant, beaucoup plus que d'Abraham. Abraham n'a pas d'enfant tant que Sarai ne peut pas enfanter. Mais nous savons qu'Abraham peut avoir un enfant avec n'importe quelle princesse. Agar, qui d'après le Midrash est la fille du Pharaon. Okay. Tout ça, on l'exploitera par la suite. Ça veut dire qu'on est averti que l'histoire d'Israël va passer par Abraham et Sarai par ce fait que Sarai est empêchée d'enfanter. Voilà le thème que je voudrais vous expliquer maintenant. Ça a l'air paradoxal. Okay. Ça veut dire, c'est dans la lignée où se cherche vraiment authentiquement le projet de l'engendrement du Fils de l'homme attendu, que les obstacles apparaissent. Vous remarquerez ça, à chaque génération, c'est très difficile d'engendrer l'étape suivante. Pour engendrer Yitzhak, ils font un miracle absolu. Okay. Sarai et Abraham ne peuvent pas enfanter la suite, jusqu'au moment où ils peuvent. Je me suis mal exprimé, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ce n'est que celui qui peut réussir, qui est empêché d'échouer jusqu'à ce qu'il puisse réussir. C'est clair ou je répète? Okay. Parce que si jamais, dans la lignée qui peut réussir, on se satisfait d'une approximation, c'est l'échec absolu. Alors c'est empêcher d'enfanter tant qu'il y a le risque d'une approximation. Et le feu vert n'est donné que si c'est le produit parfait qu'on attend. Est-ce que c'est plus clair? Bon. Alors, remarquez ça que dès le début de l'histoire d'Israël, un thème auquel on est beaucoup familier, mais sur lequel il faut s'étonner pour découvrir la signification qu'il a, les mères, les matrices de l'identité d'Israël sont empêchées d'enfanter jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'enfant qui va naître soit celui qu'on attend. Est-ce que c'est bien clair? Je vais vous donner un exemple, ça y est, c'est clair? Un exemple rapide. Au niveau d'Abraham, c'est clair, il s'agit de Sarai, mais ensuite, avec Isaac et Rebecca, on va voir que l'empêchement est encore beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. De la même manière, entre Jacob et Rachel. Et puis c'est un thème qui continue dans la Bible, qui ne s'arrête pas là, la Hannah, la mère de Shmuel. Vous retrouvez tout ça. Mais je vais reprendre, et après vous aurez le temps de poser vos questions. Ça veut dire, on est tout de suite averti que c'est la lignée des engendrements authentiques qui va être l'objet d'une vigilance, si j'ose dire. Tant que Sarai n'est pas déjà capable d'enfanter d'Abraham le tzadik de la deuxième génération qu'on attend, tant qu'il risquerait d'avoir qu'une approximation, c'est empêché. Et réfléchissez bien à ce thème-là. Nous sommes en train de l'apprendre au niveau des engendrements de l'histoire des patriarches. Mais c'est une ligne d'explication de l'évolution complète de l'histoire du peuple d'Israël. Je vais vous donner un exemple en gros plan. Il y a beaucoup d'historiens qui ont noté cela. J'ai en mémoire un historien qui a parlé de cela de façon explicite, c'est Renan. Ernest Renan, ça vous dit quelque chose ? Qui a écrit une très longue histoire du peuple juif. Très anti-juif d'ailleurs, mais comme histoire, mais comme récit. Et à la fin, il dit ceci. Il se situe juste avant l'État d'Israël, disons dans le déroulement de l'histoire. Et il dit ceci, ce peuple d'Israël, il parle des Juifs, les descendants des Hébreux, qui a donné dans une fécondité incomparable, je le cite approximativement, les grandes valeurs de l'humanité, et puis qui s'est arrêté, qui est devenu une souche stérile pendant 2000 ans du surplace. Okay ? Comme si ça passait ailleurs. Et puis subitement, la mutation arrive, et Isaac est né. Et comme vous avez déjà pu voir dans le récit, quand Isaac naît, c'est un éclat de rire général, tout le monde rigole, il y a 7 rires différents d'ailleurs, et puis dans un rire général, une chose inouïe, cette souche stérile qui donne finalement l'enfant attendu. Vous comprenez comment ce thème qui nous est expliqué en détail dans l'histoire des patriarches, nous le retrouvons comme ligne de force dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire parfois une étape du développement historique peut apprendre l'apparence d'un surplace définitif jusqu'à ce que la mutation se fasse. Vous devinez à quelle mutation je pense dans cet exemple. C'est bien clair. Pendant 2000 ans, on s'est dit le peuple juif est devenu stérile, fini. Okay. Et énormément de juifs ont pensé aussi et ont quitté le peuple juif, on appelle ça l'assimilation, etc. Et puis subitement, la mutation se fait. Ça va jusque-là ? Oui, donc de quel thème il s'agit ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Pour le cas de Rachel et de Joseph, est-ce qu'on peut penser que c'est relié avec l'apparition du Messie, fils de Joseph ?
Non, ça va être le principe, c'est par la suite qu'on va apprendre de quoi il s'agit, dans la notion du Messie, fils de Joseph.
Parce qu'il y avait d'abord 10 tribus, ensuite...
10 enfants, les tribus.
Qui étaient avec Sarah et Rivka.
Quand je vous ai cité cela... J'ai pas parlé de Léa, j'ai parlé de Rachel. Donc ça signifie que la messianité de Rachel, c'est avec Joseph, et la messianité de Léa, c'est avec Judas. Ça, nous le verrons plus tard. On étudiera en détail les circonstances de la naissance de Joseph. Si vous voulez, on peut ouvrir une parenthèse, mais j'ai peur que ça vous passe trop de parenthèses. Simplement, prenons acte de ce thème, déjà. Chacune des étapes importantes des engendrements, des tolados, il y a blocage tant qu'on n'est pas sûr que l'enfant qui va naître soit celui qu'on attend. Si c'est, vous avez compris pourquoi ? Ailleurs qu'il y ait des approximations, des copies plus ou moins conformes, une démultiplication d'identité, c'est pas grave. Mais la lignée où se cherche cet engendrement de l'identité d'Israël, c'est très grave qu'elle se fige en approximation. Ça va jusque-là ? Quand Israël est né, n'importe qui, de n'importe quelle autre lignée, peut rejoindre Israël. Mais tant qu'Israël n'est pas encore engendré, alors c'est une providence spéciale qui empêche Sarai d'avoir un Isaac approximatif. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Bon. Pourquoi c'est important encore une fois ? C'est parce que ça éclaire le sens du développement de l'histoire d'Israël en général. Je crois que cet exemple que nous venons de vivre est très éclairant. Vous n'avez aucune idée à quel point pendant 2000 ans le jugement des historiens de l'humanité, ou de l'humanité comme historienne, sur le peuple juif était définitif. Survivance caduque, je ne sais pas comment vous dire, enfin vous voyez tous les adjectifs qu'on peut employer, une espèce de fin de philom, comme diraient les évolutionnistes, je ne sais pas quoi, enfin vous voyez un peu l'image. Et tout le monde était persuadé que c'était fini, que ça passait ailleurs, en particulier c'était là. Prétention de la chrétienté, et puis sauf une poignée de juifs restés fidèles à cette promesse hébraïque à travers 2000 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est énorme. Ça a duré tellement longtemps que quand c'est arrivé et que l'enfant est né, Isaac, alors une bonne partie des juifs n'ont même pas reconnu ce qu'ils attendaient. Vous avez compris que tout le monde se met à rire, quoi, ça? Attendez, je vais
vous dire. Le d'Israël aurait pu s'appeler Yitzhak.
Et non, il est né dans les mêmes circonstances. Vous avez l'éclat de rire d'Ishmaël, vous avez l'éclat de rire de tout le monde. Tout le monde rit. Sarah rit de contentement. Abraham rit d'enthousiasme. Les anges rient de satisfaction. Mais Ishmaël rit du rire d'Ishmaël. Dérision. Je vous raconte une histoire que nous a racontée Madame Amadou Anassi. Vous avez entendu parler de Madame Amadou? D'ailleurs, je pense qu'avant la fin de l'année, elle vous fera une conférence. Et alors, elle est, comme vous savez, psychologue clinicienne. Indépendamment du fait qu'elle est philosophe d'autre part, elle est médecin indépendamment. Alors, elle nous a raconté un cas qu'elle a eu à soigner en Israël il y a quelques années. Et la personne en question est encore vivante d'ailleurs, très âgée. Et c'est une femme russe qui était réfugiée en France avec un bébé, une petite fille. Et puis, elle était veuve. Et finalement, la petite fille a grandi. Elle s'est mariée avec un juif américain et est allée vivre en Amérique. Et toutes les années, ils promettaient à la grand-mère, donc, puisqu'ils ont eu des enfants, de venir en France lui montrer les enfants. Elle attendait, espérait. Finalement, au bout de 20 ans, le moment est arrivé, sa fille est revenue la voir et les petits-enfants. Du choc, elle en est devenue folle. C'est-à-dire qu'elle n'a plus reconnu ce qu'elle attendait, parce qu'elle a trop attendu longtemps. J'ai un peu schématisé le cas, mais vous voyez un peu de quoi il s'agit. Okay? Vous voyez ce qui est arrivé au peuple juif contemporain. À force d'attendre pendant 2000 ans, quand c'est arrivé, ils ne savaient plus ce qu'ils attendaient. Ils ont cherché une terre d'asile. C'est comme ça que les juifs parlent de la France. Une terre d'asile. Vous savez que c'est un asile? Ici, nous avons un thème très important qui nous est indiqué dès l'origine. Alors, rappelez-vous, c'est le verset 30 du chapitre 11. Et on retrouvera ça à chacune des étapes. Bon, alors maintenant, on commence l'histoire de Lot. Vous avez en particulier, dans le chapitre 12, le verset 4, que vous allez noter comme référence, et on va le lire ensemble. Au chapitre 12, verset 4, Yud Be Dalot. Vayelech Abraham, Kacher Diber El Hashem, et Abraham partit, comme Dieu le lui avait dit. C'est après la confirmation que Dieu lui donne au début de la paracha, au début du chapitre 12. Vayelech Ito Lot, et Lot alla avec lui. Jusque-là, ils sont en chemin parallèle. Vers Abraham et Chamej. Bon. Verset 5. Vaikach Abraham et Sarai Ishto, et Abraham prit sa femme Sarai. Vet Lot ben Achiv, et Lot le fils de son frère, vet Kol Rechusham, et toutes leurs possessions, tous leurs biens, Asher Achashu, qu'ils avaient acquis, vet Anefesh, Asher Asu Vecharan, là je vais quand même m'apesantir un peu, vet Anefesh, Asher Asu Vecharan. C'est-à-dire, on se trouve encore à Haran. Et Abraham vient de recevoir la confirmation de Dieu que c'était bien ça qu'il fallait faire, quitter Ur Kasdim pour aller en Eretz Knaan. Ça, c'est au début du chapitre 2, l'Erecha. Bon. Et alors, là, on apprend qu'Abraham a eu énormément de disciples. Le Midrash intervient et nous dit que ça veut dire « est un nefesh », les personnes. Et comme c'est un mot générique, il est au singulier. Je ne sais pas, comme par exemple, quand vous voulez dire en français « beaucoup de monde », alors vous dites « le monde », il y a beaucoup de monde. C'est un pluriel tellement nombreux, disons, qu'on emploie un nom singulier générique. Vous comprenez l'idée? Comment ça se dit en grammaire, ça? C'est un nom collectif. Veta nefesh asher asu becharan, qu'ils avaient fait à Haran. Vous suivez? Suivez bien, parce que là, on va toucher un point assez important. Alors, le Midrash intervient et nous dit que Abraham et Sarah enseignaient leur propre valeur. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Bon, j'emploie un langage schématisé. Sarah convertissait des femmes et Abraham convertissait des hommes. C'est-à-dire qu'ils avaient avec eux toute une communauté, des disciples d'Abraham.
C'est pourquoi il est dit Asu au pluriel.
Oui, très bien. Et les deux sont indiqués au début du verset. Vaikach Abraham et Sarah Ishto. Donc le Asu va sur les deux, c'est très bien. Et je vous signale ce thème-là. Que les patriarches, indépendamment de leurs enfants, qui vont fonder l'identité d'Israël avaient d'autre part des disciples. C'est clair ? C'est indiqué comme en passant dans ce verset. Vous suivez ? Bon. Alors là, il y a un thème important qu'on étudiera d'autre part aussi. Je m'aperçois que chaque fois je vous dis on réétudiera, on réétudiera. C'est vrai d'ailleurs, il faut réétudier sans quoi ces choses-là. Et c'est que finalement, les descendants d'Abraham, on sait qui ils sont, c'est Israël. Les disciples d'Abraham ont disparu. Réfléchissez bien à ça. Okay. Je vais employer des mots un peu plus tranchés encore pour bien exprimer cette idée. Si Abraham devait être un fondateur de religion, beaucoup plus qu'un engendreur de peuple, alors on nous aurait parlé surtout de cette église d'Abraham avec les personnes dont on parle ici dans le verset, les disciples qu'il a eus. Okay. Mais en fait, le récit va s'exprimer de manière telle qu'il nous montre que l'identité hébraïque d'Abraham va se développer et passer par sa descendance de peuple, à laquelle, lorsque ce peuple devient vraiment Israël à partir de Jacob, n'importe qui de n'importe quelle lignée, à des conditions qu'on établira, peuvent s'intégrer, mais que les disciples des idées d'Abraham, des croyances d'Abraham, de la foi d'Abraham, ces disciples-là se sont perdus. Ça va jusque-là ?
Alors, il y a quelque chose de semblable avec Moïse qui est d'Égypte. Avec le peuple d'Israël, sont venus tout un peuple autour.
Très bien. Et on verra tous les pépins qu'on aura avec ce peuple-là, qui s'appelle Elera, cette grande foule qui... Donc, le vaudeur, tout ça. Ça, on verra à l'époque. Effectivement. Là, il y a une grande différence. C'est que Moïse intègre tous ces non-hébreux à Israël. Ça va beaucoup handicaper l'histoire d'Israël, comme une sorte de péché originel à l'échelle collective. On est sorti d'Égypte, pas que les Hébreux, mais les Hébreux plus tous ceux qui se sont adjoints aux Hébreux. Et comme ceux qui se sont adjoints aux Hébreux n'avaient pas l'éducation de 6 générations de patriarches, on va avoir des pépins avec eux. Donc, ça, ce thème-là, on le retrouve.
C'est des esclaves.
Je vais vous dire quelques phrases, puisque la question a été posée, mais on vous le remettra en son endroit. C'est que ce sont des hommes qui ont eu la même histoire qu'Israël en Égypte. L'exil et l'exigence de délivrance. Par conséquent, ils ont une identité parallèle à celle d'Israël. Mais, comme ils n'avaient pas l'éducation des patriarches, ils ont introduit une dimension idolâtre dans le peuple d'Israël. Vous y êtes ? Ça, nous verrons ça en préface à la faute du veau d'or. Comme nous étudierons le texte très en détail, nous verrons que c'est cette partie du peuple qui a fait que Moïse a fait sortir d'Égypte avec les descendants des Hébreux qui ont été les idolâtres du veau d'or.
Et que Dieu dit à Moïse, ton peuple.
Nahon, très bien. Et Moïse lui répond, mais alors sauve ton peuple. Vous rappelez de ça ? Je dis qu'il est. Alors, je reviens au problème. Ce n'est pas tellement une blague, mais il y a une différence quand même. C'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, Moïse intègre tous ces néfachos, toutes ces personnes à Israël, et Dieu confirme. Donc, il va y avoir, à partir de la sortie d'Égypte, une histoire très difficile d'Israël, parce qu'il prend sur lui, grosso modo, numériquement, disons, tout est à égalité. Il prend sur lui un peuple au moins aussi nombreux, qui n'est pas du tout hébreu, et qui l'intègre à l'identité d'Israël. Mais celle-là, on a anticipé beaucoup. Je reviens ici, au niveau d'Abraham. Alors, sur ce verset est accroché un thème d'enseignement très important. C'est peut-être la première fois qu'on va parler de ce problème de façon aussi explicite. Nous verrons, lorsqu'on étudierons ce thème, et peut-être assez rapidement, je le situerai dans l'histoire de Ruth, donc peut-être déjà demain, si on a bien suffisamment avancé, c'est ceci. Nous verrons qu'à partir de la dispersion des nations, vous vous rappelez, après Babel, des identités humaines, des manières d'être homme se sont cristallisées. Les nations, les goïmes. La règle est qu'on ne change pas d'identité. Un goï est ce qu'il est, et il ne peut pas devenir un autre goï. On a déjà un peu parlé de cela, réfléchissez bien à ce précis. Il y a une grande exception. On peut devenir juif. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un cas particulier dans l'histoire telle que nous la raconte la Bible et telle que nous la voyons dans l'histoire vraiment. Un exemple simple, un Français ne devient pas allemand. Un Français peut devenir citoyen de l'État allemand, mais il ne devient pas allemand. Un Allemand peut devenir citoyen de l'État français, mais il ne devient pas français. Un juif, un Allemand peut devenir juif, ou un Français peut devenir juif. Il y a un cas particulier. D'où cela vient, de ce que Israël n'est pas un parmi les goïms. Les mots sont clairs pour tout le monde maintenant. Ce n'est pas une parmi les manières d'être homme cristallisées dans tel ou tel profil. Israël a gardé, quelles que soient les apparences, parce que ça se modifie dans l'exil, dans cette identité mixte du juif de l'exil, le judéo-quelqu'un d'autre, qui est un indice de tel goï particulier, mais un juif de l'exil en général était à l'indice de 4 ou 5 ou 6 identités goï différentes en même temps. Mais je referme cette petite parenthèse-là. Je veux dire, Israël a gardé l'identité hébraïque qui est l'identité du premier homme indifférencié. Chacun des goïms étant une identité humaine différenciée. Vous avez compris le problème. Dans la tradition ancienne, jusqu'à nos jours d'ailleurs, mais enfin surtout dans les communautés traditionnelles, quand un juif se convertissait à quelque autre chose, on prenait le deuil, on disait Kaddish. Ça veut dire qu'il a quitté la lignée vivante de l'engendrement d'Israël pour aller rejoindre une des manières d'être homme dont l'histoire ressort d'une toute autre loi. Naissance, apogée, déclin et disparition. L'histoire des civilisations. Alors que l'histoire d'Israël traverse toute l'histoire des civilisations dans une dimension d'éternité. Vous comprenez bien l'explication est que l'identité d'Israël est indifférenciée, alors que l'identité des goyim est différenciée. Voilà la grande différence.
C'est pourquoi je ne cite peut-être que juif.
Et que hébreu. Bien fait. Et nous reprendrons ce projet. C'est en tout cas quelque chose que l'humanité a diagnostiqué. Et quand on étudiera les thèmes de la messianité, vous le verrez de façon plus claire. Par exemple, je vous cite un verset des évangiles qui le dit en clair et qui dit « Le salut vient des Juifs ». Il ne dit pas « Le salut vient du Christ ». Il n'y a pas de verset comme ça. Il y a un verset qui dit « Le salut vient des Juifs ». Ça veut dire que les goïms de l'époque, disons les Romains, ont diagnostiqué cela. S'il y a un salut à l'histoire humaine, ça passe par l'identité Israël. Je le dirais d'une autre manière. Chaque fois qu'une civilisation est arrivée à un stade de désespérance, ça veut dire de non-espérance, elle cherche son espérance chez un juif. C'est clair ce que je dis là. Vous voulez que je vous en des exemples? On n'a qu'à citer tous les têtes de file des grands mouvements idéologiques contemporains derrière et un juif, comme par hasard. C'est clair? Bon. Pour le christianisme, c'est évident. Et puisqu'on parle de cela déjà, je vais réserver ça pour plus tard, mais puisqu'on parle déjà, je vous montrerai qu'il s'agit d'une figure qui représente l'identité juive mythifiée. C'est-à-dire on va chercher la raison d'une espérance dans l'histoire d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il y a un juif qui a fondé le christianisme. Il y a des juifs qui ont fondé le christianisme en donnant comme figure symbole cette nouvelle religion qui va, 300-400 ans après finalement, s'appeler le christianisme, l'identité d'Israël récapitulée dans une figure mythique. Mais nous étudierons de quoi il s'agit plus en détail. C'est très clair que chaque fois que l'humanité est en quête d'espérance, finalement, elle cherche son espérance en se branchant sur un juif.
C'est la porte ouverte au marisme ?
Non. Comment explique-toi ?
Je veux dire, si le salut passe par les juifs, alors on va faire des conversions, on arrivera au salut.
Qui va faire des conversions ? Non, c'est les goïms qui disent ça. Malheureusement, la conséquence a été tout à fait autre. C'est qu'il y a eu une usurpation d'identité. Les Romains disent, le salut passe par les juifs, mais c'est nous les juifs. Vous voyez comment ça s'est arrivé ? Tout à fait autre chose qui est arrivé. Je pensais pas parler de ces choses-là aujourd'hui, et donc on prend les choses un peu trop en détail. Mais à partir du moment où l'identité Israël existe, n'importe quel homme ou femme de n'importe quelle lignée peut devenir Israël. Et à partir du moment où, par exemple, une femme est devenue Israël, il n'y a plus de mariage mixte. Là, je sais, il y a un problème qu'il faut élucider du point de vue de la sensibilité juive. C'est que, et on l'étudiera après avec vous, on dira à partir du moment où un non-juif est devenu juif, il n'est plus non-juif. Il n'y a donc plus cas de mariage mixte. Mais pour cela, il faut qu'Israël existe déjà. C'est pourquoi le statut de ce problème est différent au temps des patriarches, dont l'objet est d'engendrer cette identité Israël, et après le temps des patriarches, où cette identité Israël est déjà engendrée, n'importe qui peut la rejoindre, à certaines conditions, bien entendu. C'est clair ? C'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a un converti au judaïsme, on l'appelle Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il va refaire le chemin qui a commencé à Abraham. Et donc il a d'une certaine manière une dignité supérieure à un juif de naissance. J'ai compris beaucoup. D'autre part, le juif de naissance a une dignité supérieure qui vient qu'il est juif de naissance. Au niveau de la halakha, c'est bien clair qu'il n'y a plus aucune différence d'identité. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant on ne devient pas autre, sauf cas particulier, on peut devenir juif. Vous y êtes ? Alors ce problème, on le reprendra pour lui-même. Je n'ai pas terminé de vous dire ce qu'on apprend de ce verset, c'est que les descendants des patriarches sont restés dans l'histoire, alors que les disciples des patriarches se sont perdus. C'est clair jusque-là ? Réfléchissez bien à ça. Ça veut dire que l'idée d'une religion d'Israël qui ne passerait pas par la nation d'Israël est déjà repoussée par le récit de la Bible dès le commencement.
Et ça, c'est dit dans un verset, Lohiyara Shazé.
Ça, c'est ça, à propos d'Ishmaël.
Bon. À propos d'Eliezer.
À propos d'Eliezer, oui, non. À propos du mariage d'Isaac et d'Ishmaël. Vous y êtes ? Je reprends bien cette formule. C'est-à-dire, dès l'origine, on va être attentif à cela. C'est-à-dire, l'idée d'une religion d'Israël qui ne serait pas la nation d'Israël, c'est une éventualité des disciples des patriarches. Ils disparaissent. Est-ce que là, c'est clair ?
Est-ce que vous avez dit les disciples sont perdus,
c'est-à-dire
qu'ils sont fondus ?
Non, ils sont disparus. L'histoire qui continue, c'est Isaac et pas Ishmaël, et pas Eliezer, qui était d'ailleurs un disciple d'Abraham, Jacob et pas Ésaü. Et Jacob, ses 12 enfants, c'est eux qui l'ont fondé, le peuple d'Israël. À partir du moment où l'identité d'Israël est là, à partir de Jacob et ses enfants, n'importe qui, de quelle lignée que ce soit, Ishmaël, Ésaü, Eliezer, tout ce que vous voudrez, à l'échelle individuelle, peut entrer en Israël. C'est clair ? Mais le disciple d'Abraham n'est vraiment disciple d'Abraham que s'il est disciple de Moïse, qui est le maître d'Israël, nation d'Israël. T'avais vu comme ça ? Je veux dire que cette éventualité de l'idée d'une synagogue ou d'une église d'Abraham, Abraham fait des élèves, des disciples, est repoussée par le récit. Il s'agit d'engendrer une manière d'être homme, et j'emploie le terme de national parce qu'il n'y en a pas d'autre, okay, une nation qui n'est pas comme les autres, qui est parmi les autres, mais qui n'est pas comme les autres, à partir du moment où cette nation existe comme nation, la Torah lui est donnée. Ça va jusque-là ? C'est bien clair.
Est-ce que tous peuvent devenir juifs
Attendez, répétez, j'ai entendu.
Dans la suite de la Torah, il est dit, entrer la troisième génération.
Alors, ça, ce sont des cas.
Il y en a qui peuvent pas.
C'est pourquoi j'ai dit à certaines conditions. À certaines conditions. Mais en principe, tous. Même ces cas-là, c'est jusqu'à la troisième génération ou la dixième génération, pas plus. Okay ? Après, oui. Mais je vais essayer de caractériser ça un peu autrement, un peu plus généralement, puisqu'on parle de ce problème aujourd'hui. Mais on le verra illustré par une descendante de Lot, qui ne sont plus des Hébreux, c'est Moab. Okay ? C'est l'identité araméenne qui a bifurqué avec Lot, et qui est Ruth, et qui, comme telle, va revenir dans la lignée d'Abraham, dans la descendance d'Abraham, et apportant une partie de sainteté de cette famille des Hébreux, mais qui était perdue, exilée chez Lot. Alors voilà quel est le thème. Donc on verra que le cas particulier de Ruth, ce n'est pas n'importe lequel, et on verra pourquoi peut-être déjà aujourd'hui si on a le temps, Ruth n'est pas n'importe quelle convertie. Elle est une convertie très spéciale, très particulière, et qui porte avec elle la possibilité d'engendrement du Messie d'Israël lui-même, puisqu'elle devrait devenir l'ancêtre de David. Okay ? Mais c'est un cas particulier, malgré tout, qui éclaire le cas général. Voilà ce que je veux dire. Le projet de l'identité d'Israël est donné déjà au premier homme. Et nous avons subi toutes les étapes de l'échec de ce projet jusqu'au déluge. Et à partir du déluge, ça ne passe que par le lignée de Shem, ça arrive à Abraham. Et d'Abraham commence une sélection d'identité très minutieuse au bord de laquelle nous sommes maintenant et que la Torah va nous raconter très en détail. Pourquoi pas tout Abraham ? Pourquoi pas tout Isaac ? Pourquoi c'est Jacob seul ? Et à partir de Jacob, l'identité d'Israël est fondée, et a posteriori, Isaac et Abraham feront partie de l'identité d'Israël. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, enfin pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Nous savons que de ce Abraham va naître Israël. Mais nous ne le savons pas encore. Nous ne le savons parce que nous avons lu le récit. À partir du moment où l'identité d'Israël a émergé, en principe, n'importe quelle identité de n'importe quelle lignée, aux conditions de conversion près, entre guillemets, en hébreu ça s'appelle Giur Kahalacha, il y a une règle pour ça. Si vous voulez rentrer dans un club, n'importe lequel, le club des pêcheurs à la ligne, et bien pour rentrer dans le club des pêcheurs à la ligne, il y a un règlement. Vous comprenez le problème ? C'est bien clair. Donc il y a des conditions. Mais à ces conditions près, n'importe qui peut devenir Israël. Ça, c'est le principe. Ceci dit, l'histoire a marché. Et les lignées ont fait d'elles ce qu'elles ont fait. Et il peut arriver, et il arrive souvent, qu'il y a des points de saturation irréversible qui font qu'on ne peut plus devenir, rentrer dans la société.